Qu'on en soit conscient ou non, l'ego ou la perception qu'on s'en fait influence grandement nos relations affectives, en amour, en amitié, les relations familiales aussi. Donc pour en parler, nous sommes en ligne avec Lynn Boldu, qui est formatrice et conférencière professionnelle, auteure de plusieurs livres dont Les messages de l'ego, Paix, amour et joie, ici et maintenant. Un ouvrage paru aux éditions Québec Livre. Bonjour Lynn.
Bonjour Corinne.
Alors écoutez, je rappelle que donc, vous êtes formatrice et conférencière professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est votre approche résolument positive et dynamique qui invite tout un chacun à assumer ses responsabilités dans la vie personnelle et professionnelle. Je crois que vous avez une grande aisance à communiquer et à partager vos connaissances avec clarté et avec compassion, je trouve. Et donc vous avez publié cet ouvrage, Les messages de l'ego. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il existe plusieurs définitions de l'ego, selon qu'on parle philosophie, psychanalyse, spiritualité et autres. Je crois que votre livre s'inscrit plutôt dans le domaine de la psychologie.
Oui, si on veut, oui. Je me suis inspirée beaucoup de, c'est certain, de mon propre parcours à la base. Je me suis inspirée de beaucoup de recherches. Mais oui, ça va aller interpeller la notion au niveau de la psychologie. Puis je dirais même un petit peu au niveau de la spiritualité, qui n'a rien à voir avec la religion. Mais quand on parle de spiritualité, c'est comment je peux prendre le temps de m'intérioriser, moi, de retrouver une paix intérieure, de retrouver mon calme, ma sérénité. Donc, il va vraiment donner des conseils pratico-pratiques au niveau plus psychologique, oui, mais d'amener la personne à s'auto-responsabiliser par rapport à son mieux-être, par rapport à cette paix-là à l'intérieur d'elle-même.
Mm-hmm. Et c'est intéressant parce qu'il existe pas mal d'idées reçues sur l'ego. Enfin, on le voit souvent comme le signe d'une forte personnalité. Or, vous le reliez plutôt à une faible estime de soi, où souvent il s'exprime comme tel, ou à des attitudes rigides, comme le contrôle ou l'anti-lâcher-prise, quand on n'en a pas pris conscience, en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça un petit peu?
Ouais, l'ego, c'est un peu la partie de nous qu'on appelle notre mental, mais sauf la partie un peu qui est notre corps de souffrance, la partie que oui, va avoir vécu des blessures. On a tous 5 blessures. Ça a été popularisé beaucoup par Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'être ou de l'âme, comme on pourrait les appeler. Mais il y avait un psychiatre américain, John Pierakos, et un grand médecin autrichien aussi, William Reich, qui avait sorti ces notions-là. Alors, il y a 5 émotions principales qui sont le rejet, l'abandon, trahison, humiliation et l'injustice, qui vont avoir des impacts majeurs et qui vont un peu être le fondement de notre ego aussi. Parce que si on prend le rejet, bon, chaque blessure, si on veut, va avoir eu comme un mécanisme de protection que la personne va avoir développé. Donc, au niveau du rejet, le mécanisme, c'est la fuite. Donc, ça l'amène une personne à avoir des comportements, des fois, qui ne sont pas toujours en lien avec son être profond. Donc, ça, c'est une partie de l'ego, si on veut. Donc, si on y va d'une façon plus saccadée, l'abandon va avoir comme masque le dépendant. L'humiliation va avoir comme masque le masochiste et trahison contrôlant et injustice rigide. Alors, si on prend juste comme fondement, on pourrait développer beaucoup plus comme je le fais dans le livre, les messages de l'ego, mais juste ces fondements-là qui sont quand même très reconnus, si on est sous l'emprise de cette émotion-là qui nous a été ancrée, qu'on a ancrée quand on était petit de 0 à 7 ans, tout ça forme notre ego d'une certaine façon, qui est la façon dont on s'est protégé pour fonctionner à travers la vie. On a fait de notre mieux avec les ressources qu'on avait, mais des fois, ça donne pas des comportements qui sont nécessairement porteurs de joie de vivre, de bien-être. Et c'est là pour moi que l'ego va être facilement présentable, si on veut. Et oui, ça va affecter, je le vois dans mon cabinet en consultation privée, entre autres, autant qu'en conférence, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, donc on en voit des gens. Mm-hmm. Et beaucoup de personnes vont se sentir justement en manque d'estime d'eux-mêmes, en manque de confiance, mais c'est souvent relié à toute cette charge émotionnelle-là qui est en fondement et qui a amené les personnes à avoir un caractère, des fois, qui va être plus rigide, qui va être plus sensible, à l'arme à l'œil. Donc, la personne, qu'est-ce que l'on veut dans notre vie? On veut être heureux. Mais les moyens qu'on prend, l'état de bien-être ou de mal-être, c'est propre à chacun. Et souvent, c'est l'ego qui est la charge de ces souffrances-là, qui va diriger la vie d'une personne. Et c'est là l'importance d'ajouter de nouvelles ressources, de nouvelles compréhensions pour réaliser comment je fonctionne, moi, comme personne, et mieux comprendre les gens qui sont autour de moi. Alors, c'était le but de cette écriture-là.
Et je pense que vous avez puisé dans vos expériences personnelles donc, pour écrire ce livre. Donc, vous avez, est-ce que vous avez, parce que vous, je crois que vous parlez de renaissance et vous avez retrouvé le chemin de la joie de vivre, mais est-ce que ça passe aussi par un parcours d'analyse psychanalytique, par exemple? Tout le monde n'est pas armé pour faire de l'introspection à cette profondeur-là. Ça peut aussi engendrer, je crois, des difficultés pendant le temps de l'analyse. Donc, comment faire pour renaître et trouver le chemin de la joie?
Oui, c'est une question qu'on pourrait avoir des heures pour développer. Oui. Je vais essayer d'être très concise. Oui, c'est mon propre parcours. Moi, j'étais une personne qui portait beaucoup, on porte toutes ces blessures-là, comme je mentionnais, à différents degrés. Mm-hmm. Sauf que j'étais une personne qui vivait un profond mal-être. J'avais eu des très, très bons parents, mais j'étais une personne très introvertie. À l'adolescence, j'avais vécu beaucoup d'intimidation à l'école. J'avais pris beaucoup de poids. J'avais des douleurs physiques, des crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, et j'en passe. Et les médecins et les psychologues ne trouvaient pas ce que j'avais. C'était une souffrance physique et émotionnelle qui était importante. Et rendue à 29 ans, je n'avais jamais parlé de cette intimidation-là et je continuais d'avoir des douleurs en dedans. J'avais eu mes enfants, bon, c'est pas juste du négatif, mais j'avais mal en dedans de moi. Et à 29 ans, je me sentais comme aller droit à un mur. Et vu que j'avais pas d'estime de moi tellement, ben j'étais une personne qui était portée à culpabiliser les autres, à victimiser ma vie, à contrôler même à ses heures. Alors, j'étais pas dans la joie de vivre. On dit plus qu'on contrôle, moins qu'on contrôle. Alors, ça m'a amenée vraiment à 29-30 ans à une dépression profonde que j'ai réalisée par après, mais qui avait pas été diagnostiquée comme telle à l'époque. On retourne à plusieurs années. Donc, ça m'a amenée à faire vraiment beaucoup de recherches parce que je travaillais en diététique dans un premier métier. Il y avait pas de hasard. J'avais pris du poids, alors je voulais comprendre, mais pour réaliser que c'était les émotions aussi qui avaient une influence à ce niveau-là et c'était mon ego qui me gardait dans la souffrance. Donc, à partir de cette période de vie-là, j'ai été 6 mois en arrêt de travail et je me suis posé une grande question. Je me suis dit, s'il n'y avait pas d'argent dans le monde, j'aurais un métier à me choisir pour être utile socialement, je ferais quoi pour sentir que je mets enfin mon ego de côté, puis je veux plus être dans le paraître, moi je veux être dans l'être. Et c'est là que j'ai fait 4 ans de formation sur tout ce qui touche justement la gestion des émotions, puis développement personnel et beaucoup, beaucoup de choses qui touchent qu'est-ce que je développe aujourd'hui que les gens peuvent voir sur lynnbolduc.com. Mm-hmm. C'est peut-être la façon la plus rapide d'accéder à l'information.
Oui, c'est un site très, très intéressant d'ailleurs.
Parcours, mm-hmm. Corinne, oui, mm-hmm. vraiment, qui m'a amenée dans cet univers-là de vouloir aider les gens à sortir de cette souffrance-là. Et j'explique sur le site Internet, justement, dans la section consultation privée, il y a une petite vidéo que j'ai mise et qui explique la mécanique, comment on peut s'en sortir. Mais souvent, je termine avec ça pour cette question-là, de jouer avec nos images mentales, ça peut nous aider. Si une personne se sent vraiment prise, là, que son ego ou peu importe quoi dans sa vie la garde sous emprise, ça serait juste de se faire une image mentale pour le plaisir. Ça se représente comment, ça? Ben, je me sens comme dans une cage. Et c'est très puissant pour l'inconscient, les images. Alors, imaginez qu'on est dans cette cage-là et on ouvre la porte et on en sort. Qu'est-ce que je peux y découvrir de l'autre côté? Ou s'imaginer que ça représente un mur qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche d'avancer. Est-ce que je peux prendre une échelle, monter par-dessus ce mur-là, aller voir qu'est-ce qui est de l'autre côté? Mais imaginez, je prends un gros bulldozer, je le mets à terre. Ça vous fait peut-être sourire, mais je conseille aux gens d'expérimenter. Je le fais en processus thérapeutique beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus de techniques quand on travaille en privé. Mm-hmm. Mais symboliquement, ça représente un mur qu'on a besoin de dépasser pour être heureux. Alors tout ça, j'ai joué avec différentes techniques, j'ai appris, étudié en PNL, etc. D'accord. Et je peux dire aujourd'hui que cette paix-là, elle s'est construite au fil des jours puis qu'elle est durable maintenant.
Si on n'a pas conscience des motivations, disons justement inconscientes de motivées par l'ego, on peut être dans l'illusion, la projection, répéter les mêmes erreurs ou vivre des relations dévastatrices ou insatisfaisantes. Et donc, c'est toujours salutaire de faire un travail sur soi, de conscientisation, de lire des livres comme les vôtres, de développement personnel. Mais tout ça, ça prend du temps. Alors, est-ce qu'il ne faut pas accepter ses propres limites ou ses faiblesses, accepter tout simplement que c'est ça être humain?
Oui, tout à fait aussi. On est humain. C'est certain que c'est pas une majorité de gens qui comprennent nécessairement toutes ces fonctionnalités-là. Et ça crée, je le vois en cabinet encore une fois, ça crée beaucoup de dualité, oui. Parce que si on prend, je reviens à l'exemple des cinq émotions tout à l'heure, si on prend une personne qui est plus touchée par un sentiment de rejet, d'abandon, puis qu'une autre personne qui vit avec, que la personne qui vit avec elle, c'est plus la trahison et l'injustice. Donc, il va y avoir une personne qui va être très sensible, qui a besoin d'être câlinée, qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'exprimer ses émotions, d'avoir la larme à l'œil si elle a notre besoin. Mais l'autre, une personne qui est plus contrôlante, qui est plus rigide, elle va la voir pleurer, elle va dire « Hey, arrête ça, là, tu pleures pour rien, là. » Elle va contrôler la situation parce qu'elle est très sensible, elle aussi, mais dans ses blessures, elle ne se donnera pas le droit de le démontrer. Elle a appris tellement à se protéger pour ne pas être trahie, pour ne pas être, vivre de l'injustice. Alors, quand on vit, c'est un simple exemple, mais c'est notre ego encore là qui vient interférer. Donc, deux personnes qui se parlent à partir de leur être profond, ils seraient capables de communiquer. Mais souvent, les gens se parlent à partir de leurs blessures, à partir de leurs illusions, comme vous disiez, à partir de leur perception, comment ils ont compris les choses dans leur vie. Et c'est comme des patrons qui se répètent, si on veut, comme tel. Donc, ça a une influence, effectivement, notre ego, au niveau des relations, autant relations familiales, de travail. Donc, si on regarde une personne avec ce que j'appelle la regarder au-delà du physique, la regarder dans son cœur, ça me rappelle toujours un exemple d'une dame à la fin d'une conférence qui était venue me voir en me disant, on a un dirigeant au travail avec qui c'est très, très difficile. Il est très contrôlant. Et beaucoup de gens se retrouvent des fois en burn-out et tout ça. Alors moi, je me suis dit, OK, comment je pourrais voir cette personne-là autrement? Et elle a dit, je me suis dit que le trésor en dedans doit être fragile pour que sa carapace soit si dure. Alors, je pense que ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire. L'ego, c'est la partie de soi qui veut se protéger, qui veut cacher sa vulnérabilité. Mais tant qu'on s'observe pas agir, réagir dans nos comportements, bon, on est dans une espèce d'hypnose collective où est-ce que nos résultats par rapport au bonheur ne sont pas en évolution, mais on reste statique. On peut pas être dans un bonheur, on peut pas construire du bonheur sur du malheur, comme on dit. Donc, si on reste prisonnier de notre ego, bien, on est moins dans le moment présent. Des fois, les gens vont être vraiment sous pression intérieurement, vivent beaucoup de stress. Ça siphonne leurs énergies.
Je rappelle qu'on est en ligne avec Lynn Boldieu, qui est l'auteur du livre « Les messages de l'ego, paix, amour et joie, ici et maintenant ». Alors Lynn, une des choses qui me semble intéressante aussi, c'est le bouddhisme qui perçoit l'ego comme une construction mentale qui correspondrait à aucune réalité tangible. Alors, en effet, on peut se demander... Où l'ego peut-il être situé? Dans le bras, dans les jambes, le coude? Je trouve que c'est une approche marrante.
Ça me fait sourire parce que ça me fait penser, Corinne, à une formation que j'avais faite un jour, puis ça parlait de l'ego. Et ça disait, quand l'ego, vous sentez qu'elle prend le dessus, parce que quand on fait un parallèle avec qu'est-ce qu'il est dans les bras ou les jambes, parce que c'est une partie, en fait, de notre mental inconscient, là, la personne nous disait, imaginez qu'il vous sort de la grosse orteille puis qu'il est en train de vous parler avec une petite voix de Mickey Mouse. Vous allez vous apercevoir qu'il perd beaucoup de son ampleur. Donc, ça me faisait penser à ça.
C'est
ouais,
marrant.
C'est une partie de notre mental inconscient que, oui, tant qu'on lui donne du pouvoir, bien, on est sous cette emprise-là.
C'est
alors,
ça.
Si on s'aperçoit que c'est cette partie-là de nous qui est en train de s'amuser à nos dépens, je viens de te voir faire, là. Moi, je choisis d'être bien, d'être heureux, d'être heureuse aujourd'hui. Ça, c'est bien différent. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, quand je me lève le matin pour me faire plaisir? Comment je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, y compris la mienne? Ça peut être juste un petit exercice. Pensez à ça. Vous sortez une feuille et un crayon, et pendant 3 semaines, qui est le temps que ça prend pour créer une nouvelle habitude, c'est d'écrire quelques éléments chaque jour qui vous feraient plaisir, peu importe le prix. Vous aimeriez ça à la station spatiale internationale, vous aimeriez ça faire une croisière en Alaska. Peu importe, avoir plus confiance. Écrire 4-5 éléments par jour et... Rendu au bout de 21 jours, on en garde 5-6 qui sont les plus plausibles. Qu'est-ce qui se passe durant cette période-là? Au lieu d'être mené par notre ego, d'avoir des sensations de mal-être, d'avoir des pensées plus moroses, on est axé à qu'est-ce qui me ferait plaisir, moi? Qu'est-ce que je pourrais mettre sur cette feuille-là? Et au quotidien, qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce que ça fait longtemps, vous... À quand remontent vos derniers fous rires? Est-ce qu'il y a des gens que, des fois, on oublie ça? On dit en 1939, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour. En 1982-6, ces années. En 1990-4, on en serait rendu à 1 minute.
Oh,
donc, ça démontre à quel point l'ego a pris le contrôle.
Enfin, bon, nous, on essaye, c'est vrai qu'on essaye de positiver. C'est ce que j'aime bien dans les vidéos que vous mettez en ligne, c'est que vous suggérez à l'auditoire des petits exercices comme ça pour prendre conscience de certains obstacles au bonheur au quotidien. Et donc, je me posais la question, quel type d'exercice vous pourriez suggérer?
D'être capable, quand on parle d'exercice, c'est de parler aussi souvent. Ça peut-être pas l'air d'un exercice, mais moi, je regarde dans mon expérience, je ne parlais pas. Je gardais tout en dedans. J'avais peur d'être moins que rien si j'osais démontrer ma sensibilité, si j'osais dire que j'ai de la peine ou quoi que ce soit. Donc, on est élevé souvent dans des croyances où il fallait paraître fort et tout ça. Alors, quand on arrive dans notre douceur, qu'on se permet, parce que je le vois en consultation encore une fois, des gens ont peur de lâcher leur ego, ont peur, ils ont dit « ouais, mais si je lâche ça, ce contrôle-là, je vais me faire avoir. » Donc, d'être capable au quotidien, juste ça. Dans la prochaine heure, je vais juste faire attention à m'observer, une heure à la fois, parce que souvent, on voit ça comme un gros travail sur soi. Non, on s'amuse à être bien, c'est bien différent. Alors, ça pourrait être juste dans une heure, une prochaine heure. On pourrait juste se dire, OK, je vais juste m'observer, agir, réagir. Est-ce que je suis portée à critiquer, avoir des jugements sur les autres, à être dure avec moi-même, à être trop perfectionniste, à pas prendre le temps de m'amuser? Est-ce que, quand je m'observe agir, réagir comme ça, comment est mon interaction avec moi-même et avec les autres? Je pense que le but premier, c'est de revenir en conscience. Et de revenir dans notre corps un peu plus aussi. Je me souviens, dans les années difficiles, un psychologue m'avait dit... quand tu vas prendre une marche, parce que j'étais vraiment déconnectée de moi, là, j'étais étourdie en permanence, ça n'allait vraiment pas. Il m'avait dit, quand tu vas prendre une marche, prends contact de tes pieds avec le sol, regarde un petit peu plus haut, donne-toi une bonne posture, regarde, il y a des petits oiseaux sur les branches. Donc, c'était parce que de regarder un petit peu plus haut, ça l'amenait justement à contempler quelque chose de plus beau, de plus grand que mes émotions, si on veut. Donc, ça m'amenait dans une ouverture à la joie. Donc, sortir de notre cocon, c'est ça qui est important. Donc, une heure, je m'observe de temps en temps ou au quotidien, prendre cette habitude-là. Si j'ai envie d'avoir une altercation verbale avec quelqu'un, oups, gars, c'est mes émotions qui sont en train d'embarquer. Ça ne veut pas dire d'être utopique et de plus donner notre opinion, non. Mais être capable de doser les choses, d'être capable de dédramatiser, ça me rappelle toujours une dame un jour qui vient me voir à la fin d'une conférence encore, et elle me dit « Mon ego a été vraiment testé aujourd'hui, ma personnalité au maximum. » Elle me dit « Maman est dans un centre pour personnes âgées et malheureusement, elle a la maladie d'Alzheimer. » Sauf que dans l'après-midi, on avait demandé à une stagiaire d'aller laver les dentiers de tous les bénéficiaires. Et dans son inexpérience, elle s'était pris un grand plat de plastique et avait mis tous les dentiers de monsieur, madame, tout le monde dans le centre, dedans, et personne ne l'avait vu faire. Elle est allée laver ça, supposément. La dame en question me dit « J'arrive pour voir maman le soir. Ça fait 2 ans que maman n'avait pas de dents, mais ce soir-là, elle en avait. » Alors, elle me dit « Là, j'avais 2 choix. » Ça n'excusait pas le geste, mais de dire « OK, bon, j'en ai quasiment le petit sourire. » Ou de monter mon échelle de stress à 9,9 sur 10, puis de péter, excusez le terme, là, au Québec, on dit souvent cette péter une sainte colère, là, comme on dit, là, d'avoir vraiment une réaction de frustration et tout ça. Elle dit, j'étais pas en accord avec le geste, c'est certain. M'a dit, est-ce que l'événement méritait que je siphonne mon énergie? Alors, peut-être comme petit dernier exercice, quand il arrive quelque chose, pensez à protéger votre énergie au lieu de laisser cette partie-là qui veut prouver quoi et à qui en bout de ligne.
Pour conclure, sans avoir un ego surdimensionné, il faut apprendre à s'aimer soi-même.
Et voilà.
Qu'est-ce que vous en dites?
J'ai plus rien à rajouter.
Merci beaucoup, Lynn Bolduc, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur Choc FM. Je rappelle que vous êtes formatrice et conférencière professionnelle, auteur de plusieurs livres dont Les messages de l'ego et Se libérer de la dépendance affective, dont on parlera prochainement avec vous. Et pour en apprendre plus sur vos services et vos réalisations, j'invite les auditeurs à visiter votre site lynnbolduc.com.
Merci, ou la page Facebook Lynn Bolduc conférencière aussi, qui a énormément de ressources dessus.
C'est d'accord. À bientôt. Merci.
Merci. Au plaisir.
Au revoir.